C'est l'heure de votre 18e émission de Christian Cayol qui s'intitule La Bougeotte, présentée aujourd'hui dans les studios de Radio Galaxy. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors avant de commencer, peux-tu nous rappeler le principe de l'émission ?
Je vais vous parler d'une région de France. Le principe, c'est de vous faire partager mes découvertes au niveau du tourisme, ce que j'ai trouvé en essayant de sortir des sentiers battus. Là, on en parle et puis je vous ai motivé pour aller voir la vidéo que j'ai faite qui se trouve en lien sur le site de Radio Galaxy et aussi sur mon site personnel, Rando VTT Vidéo. Donc la vidéo et les commentaires post-vidéo.
Voilà. Alors aujourd'hui, la grande question, tu nous amènes où ? Quelle région de France tu veux nous faire découvrir ?
Alors aujourd'hui, c'est le cœur de l'Auvergne, dans un département qui est symbolisé par une figure emblématique qui porte son nom, le Puy-de-Dôme.
Mais ils sont tous fous là-bas. C'est pas le titre
alors
de ta vidéo.
C'est le titre de ma vidéo, c'est un petit jeu de mots. La vidéo, je l'ai baptisée « Les fous du Puy ». Vous devez connaître bien sûr le Puy du Fou, mais là c'est les Fous du Puy. Sur ma vidéo, vous les trouverez donc dans une rando que j'ai faite du côté de la Bourboule, autour de Puy, entre pelouse et alpage, et donc le titre de la vidéo, les Fous du Puy, et maintenant l'émission.
Voilà, alors on attaque par quoi ?
C'est le pays qui a été façonné, les grands espaces, par l'eau et le feu, c'est une terre de contraste saisissant. Et donc, la première chose qui me vient à l'idée de vous expliquer, donner un peu plus de détails, c'est sur les volcans d'Auvergne, qui sont d'origine et d'âge varié. J'ai envie de vous parler de ça. Il y a beaucoup de volcans. Il faut distinguer la chaîne des Puys au nord, qui est composée d'environ 100 volcans et qui s'étire sur 45 km. Et on les appelle les dômes. Et puis, ce sont les plus jeunes. Ils ont été formés entre 85 000 ans et les derniers, la dernière éruption, 8600 ans, c'est pas très vieux. Ils ne sont pas actifs, mais rien ne dit qu'ils ne pourraient pas le redevenir. Le plus connu, c'est le Puy-de-Dôme et puis aussi le Gourc-Tazena. Voilà les deux plus connus. Au centre, on a les Monts d'Or. Alors ça, c'est plus ancien. Ça date de la fin du tertiaire. C'est environ 3 millions d'années. On peut considérer que c'est un stratovolcan, c'est-à-dire qu'il est constitué une accumulation de coulées de lave et de cendres au cours de nombreuses éruptions. Le principal, c'est le Puy des Sancy. Et plus à l'ouest, les monts du Cantal, ce sont les plus anciens. Alors eux, c'est 13 millions d'années, le dernier formé, 3 millions d'années environ. Alors là aussi, c'est un stratovolcan, c'est-à-dire que donc des couches successives d'éruptions qui se sont posées. C'est le plus grand stratovolcan d'Europe. Il fait entre 50 et 70 km de diamètre. Le plus haut et le plus connu, c'est le plomb du Cantal. Mais on a aussi le Puy Marie qui est bien connu, le Puy Griou. Effectivement, il y en a beaucoup d'autres. Et pour avoir une bonne leçon de géologie, et si on aime ça, il faut aller au volcan le Lantegui. Le Lantegui, il fait partie de la chaîne des Puys, donc comme je disais tout à l'heure, une centaine de volcans. C'est un volcan qui est aménagé pour le tourisme. On peut visiter avec un guide à pied ou le faire dans un petit train, des wagonnets qui vous font faire le tour. C'est très intéressant et très enrichissant. Alors comme je vous disais, la chaîne des Puys, qu'on appelle les Dômes, on distingue, il y a 72 volcans qu'on appelle des cônes. Il y en a 7 qu'on appelle dômes et 18 qu'on appelle mares. On verra un petit peu plus tard pour ce qui est des mares. Pour ce qui est de l'éruption du Lantegui, elle a eu lieu, ce n'est pas des volcans très très vieux, elle a eu lieu il y a 30 000 ans, ce n'est pas bien bien vieux. Et jusqu'au 18e siècle, les volcans, on ne les connaissait pas. On ne s'était pas rendu compte qu'on avait des volcans chez nous, en Auvergne. Et le Lantegui, c'est un cône de scorie. Mais tout le monde pensait qu'il s'agissait du mâchefer. Le mâchefer, c'est quand on fait des feux dans une forge avec de la houille ou du charbon, par exemple pour forger de la ferraille, du fer, le minerai de fer, il reste ce qu'on appelle le mâchefer. On a cru pendant longtemps que ce que l'on voyait sur le Lantegui, c'était du mâchefer romain, ce sont des scories. Alors, on a donc deux types de volcans, les cônes et les dômes. Alors, si la lave qui remonte, elle est d'une température plutôt fluide et qu'elle est d'une température environ 1100 degrés, elle remonte en remontant en même temps des gaz qui forment des bulles, qui remontent en grossissant et qui finissent par éclater en arrivant à l'air libre et projeter la lave en fusion. Cette lave, en retombant, se refroidit et ça devient des scories qui s'accumulent autour de la cheminée. La nature a vite fait, en quelques semaines ou quelques mois, de former un cône de 100 à 200 mètres de haut et entre 1 km de diamètre. Lorsque la lave est moins chaude, plus visqueuse, genre pâte de dentifrice, à une température de 850 degrés, et le magma remonte plus doucement, mais il est quand même riche en gaz, et les gaz ont du mal à s'échapper. Alors l'éruption, souvent, elle débute par une phase explosive très violente, et qui correspond à ce lâcher de gaz, et le magma, ensuite, s'accumule et coule comme du dentifrice, et forme ce que l'on appelle un dôme. Donc ici, le volcan Lantéji, il s'agit d'un cône, il représente un gros tas de scories qui a été exploité par les industries du coin, notamment pendant les 60 dernières années, qui a été exploité pour empirer des routes ou faire je ne sais quoi au niveau de l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Alors, donc il a été exploité, les carriers ont dégagé toutes ces scories et laissant apparaître au centre du volcan les deux cheminées magmatiques qui se sont figées. On a donc deux cheminées dures et on se balade dans ce volcan qui fait environ 1 km de diamètre, ou à pied ou en petit train, comme je disais. Et là, on fait des visites au cœur du volcan et c'est vraiment une belle leçon avec des couleurs fantastiques de différentes teintes. C'est vraiment une belle leçon de géologie. On va tourner beaucoup autour de ça, autour de ces éjections de roches ou de lave ou de scories. Et à beaucoup d'endroits, les habitants ont profité de ces roches tendres pour creuser des troglos. Alors en particulier, le village de Roche à Perrier, ça s'appelle le village de Roche. Alors ce sont des abris naturels, j'aime bien ça. J'aime bien voir ce genre de tourisme-là.
Et on le retrouve sur ta vidéo d'ailleurs.
On va retrouver des images. Alors il y a deux troglos qui ne font pas confondre. Il y a donc le village de Roche à Perrier, et sur ma vidéo on voit aussi, c'est un petit peu différent dans les teintes en particulier et dans la roche, parce que là c'est du tuf volcanique, les troglos de Jonas, on va en reparler juste après. Donc ce sont des abris, là les roches, village de Roche à Perrier, ce sont donc des abris naturels creusés à l'âge du fer, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui ont servi d'habitation. Comme point de repère, à l'époque de la Grande Peste, 1630, il y avait plusieurs centaines d'habitants dans ce village et qui étaient répartis dans 300 grottes environ et excavations. À la dernière guerre mondiale, il existait encore 6 familles qui vivaient dans ce village. Voilà, bon, maintenant, bien sûr, c'est libre de visite pour l'instant. Ça ne va pas durer, je ne pense pas. Hein. Il y a un chantier de réinsertion qui est en train de travailler dessus. Ils aménagent les chemins, ils rapproprient tout l'ensemble, sortent de la végétation. Je pense, et ça mériterait, ça pourrait très bien s'organiser en visite certainement payante, organisée. Là, pour l'instant, c'est encore libre de... c'est très bien, libre de visite et gratuit. Alors, ce sont des beaux empilements de lahar. Alors, lahar, c'est un mot d'origine javanaise et qui signifie des coulées boueuses d'origine volcanique, principalement formées d'eau et de cendres. Ce plateau s'est formé il y a plusieurs millions d'années. Et les alluvions donc ont été transportées par les cours d'eau provenant des monts d'or. Un peu plus loin, on a, comme je disais tout à l'heure, les grottes de Jonas. Cette fois, elles sont creusées dans un tuf volcanique dû à une éruption qui date, elle, de 18 à 3 millions d'années. Et c'est une roche tendre. Et c'est un conglomérat de petits débris volcaniques sous l'action de l'eau qui se sont tassés et durcis. Alors l'organisation... On y trouve plus de 60 pièces taillées, reliées, un château, un four à pain, un pigeonnier, une chapelle décorée de fresques médiévales. On a toutes les vocations de la vie des gens de l'époque, avec donc le four à pain, les tables, voilà. Et c'est un petit peu sportif, il y a environ 500 marches. Et les premières grottes ont été creusées à l'époque celte, 400 ans avant Jésus-Christ, et ça a duré jusqu'au Moyen-Âge. La falaise fait 500 mètres de long, une centaine de mètres de haut, environ 5 étages d'excavation qui abritaient environ 600 personnes.
Ah, c'est énorme.
Énorme et très agréable à visiter. Il y a un point de vue et puis c'est original, oui.
De toutes celles que tu as pu visiter sur la France, tu la classerais comment, elle?
Les deux que je viens de parler,
ouais,
là.
Les deux, ouais.
Oui, oui.
Tu les classerais dans classé. Les... bien classé, d'accord.
Ouais. Ouais. Sur d'autres vidéos, on en voit...
oui, c'est pour ça.
Creusé dans du calcaire ou des souterrains creusés du côté de la Loire, dans le Tuffeau. Mais je les classerais très bien, celles-ci, oui. Oui, oui.
D'accord, donc à visiter, effectivement.
À visiter, absolument, oui.
Ok. Alors, la suite.
La suite, toujours un peu minérale. Je vais vous parler de la vallée des Seins, à Boude. C'est une vallée où ce sont des argiles rouges chargées d'oxyde de fer qui ont été sculptées par l'érosion, qui forment des cheminées d'effet, et on dirait une succession de moines ou de ce qu'on veut, de pèlerins. C'est un petit Colorado auvergnat, mais où la végétation a tendance à gagner. Alors moi, j'y suis allé en me disant, je vais faire voler mon drone. J'avais vu des images où il y avait de la place pour le faire voler, le faire décoller surtout. Mais la végétation a tellement gagné qu'il n'y a pas un seul endroit pour poser le drone et puis le faire décoller, c'est très compliqué. Mais vous verrez des images sur ma vidéo de ces cheminées de fées de couleur ocre.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un chemin de randonnée qui passe au milieu, tout ça, un chemin balisé du moins qui passe au milieu ou pas ?
On peut laisser la voiture à quelques centaines de mètres du village de Boude et il vous reste environ 1,5 km. C'est balisé, il y a quelques panneaux, c'est pas compliqué à trouver, à faire à pied.
D'accord.
Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé donc que de ces volcans, il y avait des cônes et des dômes. Et j'ai parlé aussi qu'on trouvait des mares. Alors, les mares se sont formées lorsque le magma, en remontant, rencontre une nappe phréatique. La vaporisation de l'eau est immédiate. Et ça provoque une pression intense qui produit une forte explosion. Donc, ça forme un creux énorme et qui donne ensuite une éruption phréato-magmatique, c'est-à-dire un mélange d'eau et de magma. Le cratère formé ensuite se remplit d'eau. Et on a des lacs, pratiquement des lacs circulaires. Il y en a de très nombreux. Le lac de Servières, le lac Guéry, le lac Chauvet, le Pavin, le Tazena, enfin beaucoup, beaucoup. Très beau à voir. Alors, il y a le cas du lac Pavin, par exemple, qui s'est formé il y a 6500 ans. L'explosion fut si forte que des sédiments ont été retrouvés au fond du lac Léman, distant de 300 km. La force de l'explosion. Alors là, c'est une grosse légende sur le lac Pavin. Il y en a plusieurs. On dit que si on lance une pierre au milieu du lac, le diable qui s'y est noyé se réveille. Il y a aussi un village qui a été inondé, englouti par le diable, l'église de Besse. Alors si on jette des pierres le 31 décembre à minuit, on entend les cloches sonner au fond du lac. Ce village, donc, il a probablement été englouti en 1250 après une éruption. Il y a eu quelques écrits là-dessus. On peut encore apercevoir par beau temps les ruines et le clocher au fond, soi-disant. Alors, le lac est dû aux larmes du diable, pour certains, et c'est aussi la porte de l'enfer. C'est un lac qui serait sans fond. Et puis on prétend qu'aucun esquif ne peut s'y aventurer sur ce lac, et qu'il n'y a aucun poisson qui peut y vivre. Voilà toutes les légendes sur ce lac Pavin, rien que sur un seul lac.
Et c'est de l'antitourisme que tu nous fais là.
Non, je pense pas. Mais enfin, ça fout un peu les jetons.
Oui, je comprends, oui.
Alors vous avez, j'en parlais tout à l'heure, le lac Servières, et c'est aussi un mar. Le lac de Guéry, alors lui, il résulte de l'obstruction de deux cours d'eau par une coulée de lave il y a 2 millions d'années. Le Gourtazena, qui lui date de 29 000 ans. Attention l'échelle, hein. 29 000 ans le Tazena, 2 millions d'années, le lac Guéry. C'est pas pareil.
Oh, il n'y a pas une grosse différence.
Non. Alors, quand vous êtes au lac Guéry, il faut aller à la cascade de la Barthe. Magnifique. Elle est au milieu des pâturages et des bruyères. Elle saute un front de lave d'une quinzaine de mètres de hauteur. Cascade de Barthe, très belle à voir. C'est pas loin. Alors maintenant, je vais vous parler de... Certainement, vous avez remarqué qu'en Auvergne, il y a énormément de châteaux médiévaux et de places fortes. Mais pourquoi ? Alors, depuis Charlemagne, l'Auvergne est rattachée à l'Aquitaine. Mais il faut se souvenir qu'en 1154, Aliénor d'Aquitaine épouse Henri II de Plantagenet, roi d'Angleterre. L'Auvergne change de camp. Et Philippe Auguste, lui, il aimerait bien reprendre toutes ses terres. Dans les châteaux, certains n'ont pas bougé. Par exemple, le château d'Homme, on prononce Homme, ça s'écrit O-P-M-E. Et le château Dauphin, à Pont-Gibaud, n'ont jamais été détruits, ce qui n'est pas la généralité de beaucoup d'autres qui ont souffert. Beaucoup ont servi de carrière au XIXe siècle, comme le château de Tournoel, une forceresse en principe imprenable, mais qui est tombée par la ruse de Philippe Auguste, donc Tournoel qui a été ensuite vandalisé. Le château Murol, magnifique, et qui a été épargné de la politique de désarmement de Richelieu, mais qui a quand même fini comme prison, repère de brigands et carrière de père. Alors, cette histoire de désarmement de Richelieu, reprenons l'histoire. En 1626, aux États annuels de Bretagne, il est décidé une politique de désarmement voulue par Richelieu pour mettre la noblesse rebelle sous l'autorité, la sienne, et aussi de Louis XIII, le fils d'Henri IV. Louis XIII voulait être le seul à détenir des forteresses. Alors, il fait interdire les duels, il interdit les habits de luxe, il supprime les charges coûteuses de connétable, d'amiral de France, accorde des dispenses de dérogation aux nobles désireux de faire du commerce, il ouvre l'ennoblissement aux roturiers, notamment aux marchands, et il prétend soumettre au roi, donc aux taxes domaniales, toutes les terres qui sont sans titre. Une politique de démantèlement systématique des remparts de villes, des créneaux, des églises, des maisons fortifiées, bastions, routes, ponts, châteaux, tout ça, ça va être démantelé par l'œuvre de corvée de riverains. L'enjeu, c'est de mettre un terme aux dangers qu'ils proviennent de l'intérieur, en particulier de la révolte des nobiliaires. Richelieu poursuivra ce mouvement contre les grands du royaume en rasant plus de 2000 châteaux. Et il vise aussi la destruction des places fortes protestantes pour éviter le risque de la propagation à toute la région et qui serait tenté de chercher l'autonomie. Alors, même si l'entreprise fut loin de détruire toutes les places fortes du pays, une évolution s'amorçait dans le royaume. Les fortifications seraient réservées aux places fortes sur la frontière de la France, uniquement. Alors, que découvrir d'autre ? Des points de vue un peu partout, sur les volcans ou sur les vallées, comme celle de la Sioule, le méandre de Cueil, par exemple, un balvédère du paradis, que vous trouverez sur ma vidéo, un magnifique méandre au milieu de la végétation. Et puis aussi le point de vue de Gergovie. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Gergovie ? Eh bien, en 52 avant Jésus-Christ, les forces gauloises, conduites par Vercingétorix, repoussent les troupes romaines qui les assiégeaient. Le récit de la bataille nous est laissé par les écrits de Jules César. Les chefs gaulois étaient divisés, et certaines tribus s'étant alliées aux Romains, mais les Arvernes restaient les plus nombreux et les plus puissants. La légitimité et le sens stratégique de Vercingétorix avaient motivé d'autres troupes venues d'Aquitaine ou du Ruthénois à se coaliser et à occuper l'oppidum. César installe ses troupes en contrebas. Il protège les légions entre deux camps par un fossé de 12 pieds de large et de 2 km de long. C'est alors qu'une partie du peuple éduain, on en a déjà parlé dans le Morvan, composée d'une grosse cavalerie, lâche Jules César et se rallie à Vercingétorix. César lance une tentative d'assaut qui se solde par un échec. Les pertes romaines et surtout éduaines, celles qui étaient restées avec César, sont importantes et c'est un échec cuisant. César doit renoncer momentanément. Les éduaines se rangent tous côté Arverne vainqueur. Un monument de pierre de Volvic est édifié en bout de plateau de Gergovie pour cette victoire. Vercingétorix, à 28 ans, fédère la plupart des peuples gaulois, mais bien sûr, vous le savez tous, il sera vaincu à Alésia quelques mois plus tard, puis enfermé à Rome, et il sera exécuté 6 ans plus tard. Un peu oublié, je parle de Vercingétorix, Napoléon III fait ériger en 1866 une statue de 7 mètres de haut à Alise-Sainte-Reine, site présumé d'Alésia, et sur le socle on peut lire « La Gaule unie formant une seule nation » animé d'un même esprit, peut défier l'univers. La Troisième République se sert de cette figure mythique nationale et instrumentalise Vercingétorix en insistant sur son rôle héroïque et résistant à l'envahisseur. C'est un sentiment qui exacerbe un sentiment de revanche après la défaite de 1870. Alors, moi j'ai eu la chance de me trouver sur ce plateau de Gergovie à un moment où venait d'être découvert par une recherche dirigée par l'archéologue Peter Jude, responsable des recherches entreprises sur l'oppidum, il venait de découvrir deux choses fondamentales. La porte d'entrée des remparts, les remparts de Gergovie, les archéologues savaient où ils étaient, mais la porte d'entrée, on ne la trouvait pas. Il venait juste, au moment où je m'y trouvais, de découvrir cette porte, ainsi qu'une place principale de 80 mètres par 40 environ, un dallage tel qu'il avait été, alors environ sous une quarantaine de centimètres de terre, il venait de trouver ce dallage. Et l'organisation faisait une journée, genre journée porte ouverte, pour faire connaître cette découverte, et ils avaient fait venir de la presse, les officiels, et ils faisaient des visites comme ça. Ils en ont fait quelques-unes, et moi j'ai la chance de participer, et vous verrez sur ma vidéo, on voit le dallage de cette place en particulier. Alors, si vous aimez aussi ce genre de tourisme, si vous êtes touché par la lutte de nos ancêtres gaulois, il faut aller à Clermont-Ferrand, voir la statue équestre de Vercingétorix, une statue de Bertholdi, inaugurée en 1803. C'est encore là la République qui cherche ses valeurs dans le passé et porte l'inscription « J'ai pris les armes pour la liberté de tous ». Voilà, c'est gravé en bas de la statue, une propagande encore destinée à exalter le patriotisme des Français.
Eh oui, oui. Et à 3 minutes de ta vidéo, à peu près, on voit un bâtiment triangulaire avec 3 colonnes. C'est un rapport ou pas ?
Ce dont tu me parles, c'est le monument qui est au bout du plateau de Gergovie et qui correspond effectivement à la bataille de Gergovie, dont je viens de parler précédemment.
Donc voilà.
C'est la stèle de Gergovie.
Ok, voilà, donc qu'on retrouve à 3 minutes de ta vidéo, que tu peux rappeler d'ailleurs. Comment elle s'appelle ?
Les Fous du Puy.
Et on la retrouve où ?
Rando VTT Vidéo.
Et des dolmens, des menhirs, il y en a plein sur ta vidéo aussi.
Oui, bien sûr, j'allais le dire. Des mégalithes, bien sûr, tu me fais une bonne transition. Il y a, par exemple, il y a ceux de l'allée couverte à la grotte qui s'appelle la grotte de Cournol et qui a été détruite par la foudre en 1835. Et puis aussi, il y a le beau menhir de Fouet qui fait environ 15 tonnes et qui est à Aïda, assez grand. Ah mais j'allais parler aussi, c'est plus des menhirs, j'allais parler de Notre-Dame et des Fers à Orcival. C'est une belle église et qui est pendue sur le fronton de l'église, un peu sur le tour à l'extérieur. Vous avez les fers des galériens. C'est Notre-Dame et des galériens à Orcival. Sur ma vidéo, on voit aussi des tombes mérovingiennes. Mmh. J'aurais pu parler du musée de la pierre à Volvic. On voit sur ma vidéo, on voit des grosses chaînes pour tirer des palans, on voit des... l'intérieur, je n'ai pas pu le filmer parce qu'il n'y a pas de lumière du tout, très peu. Donc voilà, on ne peut voir que l'extérieur.
Il y a aussi sur ta vidéo, on voit des petits villages authentiques qui ont l'air très sympathiques, tout en pierre, beau.
Oui, en village authentique, ce sont les chaumières de Farge. On n'est pas loin de Saint-Nectaire. Et vous remarquez bien, si vous regardez mes images, on voit dans la végétation une façade avec des portes et fenêtres. Et ensuite, c'est un toit végétalisé, en fait, c'est la colline. On voit des petites cheminées qui dépassent. Voilà, on est là, les chaumières de Farge, ça s'appelle. À voir, ça se visite.
D'accord.
Des choses à découvrir, il n'en manque pas. Moi, j'ai passé une semaine, pas le temps de buller. Si vous arrivez à faire tout ce que je viens de vous parler encore, j'ai oublié certainement de vous parler de certaines choses. Il ne faut pas chômer, il faut vraiment... Alors, j'ai quand même pris le temps de faire une rando de VTT. On en voit les images. C'est là qu'on voit les Fous du Puy, bien sûr, et qui est au-dessus de la rando, faite au-dessus de la Bourboule, entre forêt et pelouse.
À la fin, il y a aussi la fameuse aquarelle de Nadine.
Alors, l'aquarelle de Nadine, bien sûr, qui termine ma vidéo. Alors là, elle a peint, on appelle ça les roches Tuilières et Saint-Nadoire. Ce sont deux anciens volcans érodés par un glacier. Le premier, il ne reste que la cheminée, et le second, il ne reste qu'une partie du cône. Et on voit très bien le passage du glacier au milieu de ces deux roches, cette vallée en auge, entre les deux volcans. Voilà, ça se remarque très bien. Et le mois prochain, nous découvrirons de magnifiques méandres dans une vallée de notre région.
En attendant, je vous dis bougez, mais bougez en France, et à bientôt. Et à bientôt, et on rappelle rapidement le site où on peut trouver tes vidéos.
On peut les trouver en lien, allez sur... Radio Galaxie 31 et sur mon site perso Rando VTT Vidéo. Après avoir écouté tout ça, allez voir ma vidéo et faites-la connaître, partagez.
Voilà, super.
Merci
Christian.
Au revoir Francis.